CFM, le mag.
Bonjour à tous, émission spéciale aujourd'hui sur CFM, émission autour du thème de la mobilité innovante en Aveyron, dans les territoires aussi, parce que l'on va beaucoup parler de notre département à l'Aveyron, mais on va aussi mettre le pied un tout petit peu au-delà aujourd'hui avec nos invités nombreux. Vous allez le découvrir en premier, celui qui a eu l'idée de cette émission, c'est monsieur Alain Picasso. Bonjour Alain.
Oui, bonjour CFM.
Alain, il est directeur de l'agence de l'hydroélectrique d'EDF, Une Rivière, un territoire développement, qui est basé d'ailleurs sur le Tour de Vilain, à Rodez en particulier. Bonjour monsieur Picasso.
Bonjour.
Alors, vous avez eu envie de parler de ce thème de la mobilité innovante en Aveyron, et je viens de donner l'intitulé de votre titre, de vos fonctions, Une Rivière, un territoire développement. Il y a un lien, il doit y en avoir un, mais moi je ne le vois pas comme ça directement.
Alors si, il y a un lien tout à fait légitime entre la mobilité et la rivière, puisque vous savez que l'Aveyron est le premier département de France en termes d'énergie renouvelable, avec un gros parc hydroélectrique, de l'éolien et du photovoltaïque. Et la mobilité de demain, ce sera une mobilité décarbonée, donc électrique, et l'hydroélectricité produit de l'électricité qui demain va alimenter les véhicules.
Ah ouais, d'accord, il a bouclé.
Et la boucle est bouclée.
Alors, il va y avoir plusieurs invités dans cette émission, notamment Tristan Garcia, qui est d'ores et déjà avec nous dans les studios. Bonjour Tristan.
Bonjour David.
Alors Tristan, c'est un jeune dirigeant, un start-upper, je sais pas comment on dit.
Tout à fait.
Rue Ténois.
C'est ça.
Puisque vous avez lancé votre entreprise qui s'appelle Soma. TIC, S-O-M-A plus loin TIC.
C'est ça.
Il y a quelques mois à peine, ici à Rodez.
Depuis juillet 2016, oui.
Alors juste un mot sur la société somatique, mais on va en parler bien plus loin et bien plus longuement. C'est quoi? Vous faites quoi?
Ben, comme son nom l'indique, on est spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, et en particulier le web marketing.
Ouais, TIC, c'est technologie de l'information et de la communication.
Exactement.
Et vous travaillez sur une application très innovante et spectaculaire, j'ai envie de dire, qui sera très 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 bientôt disponible. Sur le Rue Ténois, on va voir ce que c'est dans cette émission. Avant de parler de mobilité innovante en Aveyron à travers l'hydrogène, pourquoi pas, sous l'aspect aussi du tourisme, c'est important. Et puis on aura aussi des annonces et des gros rendez-vous à venir sur l'Aveyron, vous allez voir ça. Et bien avant, première chose, j'ai envie de vous dire, monsieur Alain Picasso, on serait tous plus ou moins d'accord pour utiliser la mobilité innovante des voitures électriques, pourquoi pas. Mais un des soucis, c'est avant de rouler en électrique ou après avoir roulé en électrique, faut se brancher, faut recharger. C'est souvent une des raisons pour laquelle on s'équipe pas de voiture électrique, c'est parce qu'on se dit mais moi je veux pas tomber en rade ou alors passer mon temps à trouver la borne la plus proche.
Alors effectivement, il est important d'avoir des infrastructures de recharge, et on a un acteur important en Aveyron qui est le CIEDA, qui est représenté par monsieur Albespi, qui va nous présenter le plan de déploiement de l'infrastructure de recharge de véhicules électriques pour le département. Et puis je voudrais dire que pourquoi il est important de décarboner la mobilité, parce que en fait les émissions qui sont liées au transport représentent à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre, et que de plus, comme vous le savez, la mobilité des véhicules thermiques est pas sans proposer des problèmes sanitaires liés notamment aux émissions de particules fines.
Allez, on va appeler monsieur Albespi, parler donc apparemment de ce déploiement de bornes de recharge sur le département, déploiement en cours.
C'est un déploiement en cours assez ambitieux qui va permettre notamment dans les territoires ruraux d'avoir des bornes pour recharger les véhicules.
Bon, on va voir ça dans un instant. On s'envoie un petit morceau dans cette émission. Ça a à voir avec d'autres thèmes d'ailleurs. M,
oui, c'est pas mal M, parce que comme il a les cheveux dressés sur la tête, on dirait qu'il a pris une décharge électrique.
On se retrouve juste après dans cette émission spéciale autour de la mobilité innovante en Aveyron sur le 107.9 CFM.
Tu sais presque tout. Tu sais la vie, c'est trois fois rien. Trois fois rien, c'est déjà beaucoup. C'est ma vie qui veut ça.
C'est ta vie qui veut ça.
C'est ma vie qui veut ça.
C'est ta vie qui veut ça. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout. Là, c'est tout. C'est tout.
Mobilité innovante en Aveyron, il y en a vraiment de plus en plus, ça arrive fort, vous allez l'entendre dans cette émission sur CFM. La mobilité innovante en Aveyron, on en parle avec notre invité principal Alain Picasso qui est toujours avec nous. Alain est le directeur de l'agence de l'hydraulique de EDF, une rivière, un territoire développement. Et vous avez expliqué le lien entre ces fonctions et cet intérêt pour la mobilité innovante. Mobilité électrique en particulier, mais pas seulement. On va voir ça dans cette émission. Alors avant qu'on ait des annonces, hein, Alain, vous avez des annonces à nous faire autour de la mobilité innovante dans le département. Il va se passer des choses cette année 2017.
L'Aveyron, effectivement, prépare l'avenir avec des choses très innovantes qui vont se tenir en Aveyron. Et donc, je dirais que pour 2017, l'Aveyron est the place to be.
Ah ouais, carrément. Non, mais des vraies dates, des vrais rendez-vous dont on entendra parler bien au-delà de notre département. On va voir ça dans un instant. Mais avant de partir sur toutes les applications dues à l'électricité, l'utilisation de mobilité innovante, on se disait tout à l'heure, tout ça, c'est bien joli. Mais à un moment donné, pour avoir la mobilité, la vraie mobilité, il faut aussi des bornes de recharge, tout simplement. Et donc, le déploiement est en cours. Vous nous disiez, Alain Picasso, on va le vérifier auprès de Jean-François Albès-Pic, qui est conseiller départemental et qui est par ailleurs surtout, pour notre sujet, président du SIEDA, syndicat d'énergie de l'Aveyron. Monsieur Albès-Pic, donc des bornes poussent ou vont continuer de pousser en Aveyron ?
Elles vont continuer de pousser puisqu'on a commencé le déploiement d'un réseau départemental de bornes de recharge de véhicules électriques depuis maintenant 6 mois à peu près. Ça va s'étaler jusqu'à la fin de l'année.
Là, actuellement, je ne vais pas vous dire au jour d'aujourd'hui, mais actuellement, il y a combien de bornes de recharge qui sont utilisables par les Aveyronnais sur le département ?
Alors, le programme que nous avons déposé porte sur 80 bornes et on devrait en avoir mis en service d'ici milieu 2017 une soixantaine, 50-60 par là.
Le plus gros ?
Oui, la plus grosse partie, oui.
Pour aboutir au 100%, aux 80 bornes installées en Aveyron, c'est quoi l'échéance, le calendrier ?
C'est qu'on avait prévu une petite marge éventuelle pour des collectivités qui souhaiteraient a posteriori en installer chez elles.
Alors, avant de revenir un peu à la localisation de ces bornes, ça veut dire que justement leur localisation de ces bornes de recharge électrique, elle est décidée d'un commun accord ou c'est une demande des municipalités ? Comment ça fonctionne ?
C'est-à-dire que nous avons répondu à un appel à projet de l'ADEME. Pour ce faire, on a réfléchi à ce que pourrait être un réseau structurant à l'échelle du département et on est arrivé à ce réseau potentiel de 80 bornes. Donc après, au fur et à mesure, nous avons sollicité les collectivités pour savoir si elles voulaient adhérer à notre démarche. Et puis, certaines viennent, d'autres sont plutôt dans l'expectative et donc, petit à petit, on déploie.
Alors, si le nombre de 80, c'est le nombre de final, ça correspond, selon des calculs, je ne sais quoi, au nombre suffisant pour qu'on ne puisse jamais être bien, bien loin d'une borne de recharge, le schéma de la localisation, il fonctionne là-dessus ou sur d'autres bases ?
Nous, on l'a plutôt raisonné par rapport à une implantation des services, que ce soit des commerces ou des services publics, en se disant, bon, il faut malgré tout un peu de temps pour recharger ces bornes, donc ça suppose que on puisse faire se livrer à d'autres activités. Donc ça a été plutôt raisonné par rapport à ces implantations-là.
Vous pouvez me citer, si vous avez ça en tête, hein, quelques-unes des bornes qui sont d'ores et déjà installées sur le département ?
Alors la première que nous avons installée était sur Entraille, puis on a après inauguré sur Pont-Salard, Honnay-le-Château, donc petit à petit. Voilà, ce sont les premières que nous avons mises en route, celles-là.
Petite question technique, j'y connais pas grand-chose en borne de recharge, mais j'entends parfois parler de ces sujets-là. Ça permet de recharger sa voiture électrique, c'est des prises qui permettent de recharger en combien de temps ? Enfin, il y a des particularités là-dessus ?
Ah oui, il y a trois types de bornes. Celles qu'on installe, c'est des bornes rapides. Je comprends toujours, il y a des bornes rapides et accélérées. Mais ça permet de recharger en 2 heures environ. Donc c'est pas les plus rapides, mais voilà, c'est 2 heures.
Avec 80 bornes à terme, l'Aveyron, on est comment par rapport aux voisins ou à des départements plus?
D'emblée, on s'est dit que de raisonner juste à l'échelle du département, c'était trop étroit et que nos concitoyens ne se déplaçaient pas qu'en Aveyron. Donc, il fallait voir ce qui se passait sur les départements limitrophes. C'est comme ça qu'on a été en contact avec nos collègues des autres syndicats pour mettre en place un réseau que nous avons appelé Réveo, qui couvre pratiquement tous les départements de la région, de la nouvelle grande région. Et là, c'est de mémoire, il me semble 900 bornes à peu près qui devraient être déployées au total. Réseau Réveo.
Donc l'Aveyron avec 80, c'est pas loin de 10%.
Oui, c'est une bonne partie. Oui. Une bonne partie. Et on était les premiers à avoir bénéficié du soutien à Ben.
Et alors avec la particularité du département qui est à la fois vaste, mais oui, à la fois peu peuplé, donc moins de clients.
Oui, mais bon, il faut. C'est pas lié à la densité, c'est plutôt lié au déplacement en fait. Donc voilà, mais on fait avec la dimension du département.
Alors en tant que président du syndicat d'énergie de l'Aveyron, bon, j'imagine que vous faites pas mal de déplacements. Est-ce que du coup vous y êtes déjà mis à la voiture électrique ou en attendant?
Non, moi je n'y suis pas, mais on a fait l'acquisition d'au moins un véhicule au niveau du syndicat et on envisage de renouveler la flotte sur cette base-là.
Ah, au moins quand il y aura les 80 bornes, vous n'aurez plus d'excuses.
Voilà, on donnera l'exemple.
Bon, j'espère.
Oui.
Merci beaucoup, Monsieur Albespi, d'avoir été avec nous. Une bonne journée à vous. Au revoir.
Au revoir.
Et vous, Monsieur Picasso, au fait, directeur de l'agence de l'hydraulique d'EDF, une rivière, un territoire développement, vous roulez comment?
Alors moi, je roule avec une voiture hybride, parce que oui, j'ai besoin d'une voiture multifonction qui permet à la fois de faire des trajets courts à l'électrique et des trajets plus longs où je mets en marche mon moteur thermique, mais qui a un secours avec la partie électrique.
Pas mal, pas mal, hybride, pas mal. Tristan Garcia, créateur d'une start-up ruthénoise dont on va parler un petit peu plus loin dans l'émission. Jeune homme, tout tourné vers l'avenir, quoi. Voilà, 21e siècle. Bon, alors il roule à quoi?
Et je suis pas encore équipé.
Ah bah encore mieux, alors lui il a tout réglé.
Voilà.
Pas encore équipé?
Pas encore, ça va venir.
Et est-ce que vous avez sinon en tête quand un jour votre start-up vaudra des milliards de dollars?
Oui.
Bon, est-ce que vous avez donc vous aurez envie de vous acheter une voiture, quoi, grosso modo?
Ouais, bien sûr.
Et vous avez cette préoccupation de développement durable, de faire attention aux émissions de CO2 ou bah non, moi je veux une Porsche.
Ah non, pas du tout. Nous là, c'est complètement inscrit dans l'ADN de la société, travailler avec tout ce qui est nouvelle technologie, donc bien sûr, on sera tourné vers l'électrique, peut-être des hybrides juste aussi. Ouais.
Faites gaffe, hein, j'enregistre tout là. C'est enregistré ce qu'on est en train de se dire, Tristan. Hein, on ne va pas venir faire le malin avec vos milliards de dollars et vos machins, vos tanks.
Non, on s'inscrit vraiment dans l'ADN de la société, travailler sur tout ce qui est nouvelle technologie. On est des geeks, hein, donc on aime bien tout ce qui est connecté, qui est nouveau et tout ça, quoi.
Allez, on va poursuivre dans cette émission spéciale aujourd'hui sur CFM autour de la mobilité innovante en Aveyron. On poursuit avec Alain Picasso. Hein. Mobilité innovante, ok, mais mobilité innovante et tourisme.
Alors effectivement, donc on a vu avec Monsieur Albespi qu'on allait bientôt avoir une bonne infrastructure de recharge électrique en Aveyron. Et donc on considère que l'Aveyron, qui est le premier département de France pour la production d'électricité renouvelable, notamment grâce à son parc hydraulique, a vraiment une carte à jouer dans le développement de solutions de mobilité innovantes associées au tourisme. Ce qui permet de renforcer l'attractivité et notamment de nous différencier de l'offre touristique d'autres territoires. Mmh. Et donc, pour illustrer ça, on est notamment partenaire du conseil départemental de l'Aveyron pour le développement de la navigation électrique sur le lac hydroélectrique de Castelnau, dans le Nord Aveyron, où on a mis un service de location de 2 et bientôt 3 navettes électriques pour permettre aux touristes de naviguer sur le lac en toute sérénité. Et cette offre, en fait, elle a connu un tel succès pendant la dernière saison, que justement, ça justifie aujourd'hui qu'on mette en place un troisième bateau.
Alors, vous avouez, moi, ça, j'ai pas encore assez visité l'Aveyron. Donc là, ce lac de Castelnau, il est où exactement, ce lac hydroélectrique?
Alors, c'est un lac qui est après Spalion.
Ouais.
Donc, il y a un barrage qui s'appelle le barrage de Castelnau, avec une très belle retenue.
Ah ben, je connais pas encore celle-là. Je connais pas encore. Bah, écoutez, oui, d'accord.
Voilà, et un très beau village qui fait partie du patrimoine de l'Aveyron.
Ah bah merde, pardon.
Oui. Donc, je vous invite à découvrir. Bah,
oui, enfin, bah, je vais y aller. En plus, avec les beaux jours, là, faut y aller. Et d'autant plus que vous dites, donc, il y a deux navettes électriques. Qui font quoi, un circuit sur le...
Alors, il y a deux navettes électriques que le touriste peut louer pour faire une promenade en famille, voire une partie de pêche sur le lac.
Comme un pédalo, mais électrique, on pédale pas.
On ne pédale pas, voilà. C'est d'accord. Complètement électrifié, avec, pour l'une des navettes, un toit photovoltaïque qui vient recharger les batteries.
D'accord, ah oui, donc là, on est bien dedans.
Et je... la cerise sur le gâteau, ces deux bateaux ont été construits en Aveyron. Ah. Par un artisan qui s'appelle Monsieur Ferrier.
Bravo, on a même un armateur en Aveyron, figurez-vous. On n'a pas la mer, mais on a des fabricants de bateaux, c'est très bien. Bon, ok, c'est bien noté. Donc, troisième navette électrique mise en service cet été, pour cet été.
Voilà, et puis, autre projet extrêmement intéressant, avec la société Ruban Bleu, qui est bien connue à Rodez.
Société Transport Ruban Bleu, non ?
Voilà, c'est eux qui assurent le transport collectif sur l'agglomération de Rodez.
Des cars.
Voilà, des cars, mais pas que, puisqu'ils sont aussi sur Albi. Mmh. On a lancé l'initiative de la création d'une offre de mobilité électrique et digitale entre le musée Soulages et Conques. Alors pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas votre propre véhicule et que vous venez au musée Soulages, vous avez une envie légitime d'aller voir les vitraux de Conques qui ont été conçus par le peintre. Mais c'est compliqué quand on n'a pas son véhicule. Et donc, dès cet été, le visiteur du musée pourra accéder à un service de mise à disposition de zoo électrique associé à une application digitale qui va lui permettre de se rendre à Conques en toute confiance sur l'autonomie pour son trajet, avec tout un contenu offert par une application numérique qu'il aura téléchargée, application qui a été développée par une start-up qui vient bientôt nous la présenter.
Bah ouais, Tristan Garcia, c'est vous l'application digitale, on va en parler.
C'est ça, tout à fait.
Avec votre société Somatic, hein. Soma, S-O-M-A, TIC, T-I-C, bon, je suis à vous dans un instant. Mais juste avant d'arriver à l'application digitale, juste, j'ai bien compris le truc. C'est-à-dire qu'à partir de cet été, devant le musée Soulages, il y aura des Zoé électriques, des petites voitures électriques Renault, là, je crois, c'est ça. On peut citer la marque, hein, c'est pas grave. Bon, ok. On voit ce que c'est. Qui seront là en libre service, grosso modo. Après, on précisera. Et utilisables par tout un chacun, comme moi, pour faire le trajet jusqu'à Conques et revenir. Et aller visiter, en plus du musée Soulages, Conques. C'est ça, c'est bien ça.
Alors, l'ambition, elle est bien là. C'est-à-dire que le touriste qui réservera son entrée au musée Soulages, il pourra aussi réserver un service de véhicule électrique en autopartage.
D'accord.
Avec une application qu'il pourra télécharger, qui va lui offrir tout un tas de services que va nous présenter Tristan.
Ouais, alors, j'ai bien compris, Tristan. Donc, j'ai votre application.
C'est ça.
Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche?
Ben, tout simplement, le voyageur qui arrive sur Rodez, arrive souvent par l'aéroport, télécharge l'application en avance, réserve son billet, son entrée pour le musée, et réserve en même temps un véhicule électrique.
D'accord.
Il fait la visite du musée et récupère le véhicule électrique.
Le véhicule électrique, je le réserve où ?
Directement via l'application.
Ok, excuse-moi, je comprends rien, Tristan, tu sais, moi je suis pas...
Il n'y a pas de souci.
Ok, donc j'arrive, je télécharge ton application qui s'appelle comment, elle a un nom ?
Elle n'a pas encore de nom.
Ah bah, faudra lui trouver un nom. Hein,
on travaille,
Ouais, d'accord, bon, c'est pour l'été, donc vous avez le temps, mais si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me demander. Je suis nul, en nom, mais des fois, bon, ok. Donc cette application, on la télécharge.
Voilà.
Comme on sait faire maintenant, c'est très facile.
Oui, deux clics.
Alors ensuite, tu me dis, on réserve son auto, sa Zoé.
Voilà. À partir, une fois qu'on a réservé la Zoé, en fait, il y a deux solutions. Les véhicules seront en autopartage et tout le process va être intégré. Donc, à partir de là, l'application va être connectée avec une autre application que Renault nous fournit, qui permet de faire l'état des lieux du véhicule en prenant des photos directement du véhicule qui sont envoyées sur un serveur et Renault vérifie l'état du véhicule.
Ah, d'accord.
Ça, on photographie son permis aussi, on l'envoie et ça génère automatiquement l'assurance et tout est mis en place. D'accord. Et après, le téléphone va servir de clé pour ouvrir le véhicule. Donc en s'approchant du véhicule, ça détecte l'application avec une puce RFID et ça ouvre le véhicule. Et à partir de là, ben, on peut partir et se promener. Et après, ce qui est intéressant via notre application, c'est que nous, on est un peu un compagnon de voyage, donc un vrai couteau suisse pour le touriste, puisqu'on va le géolocaliser sur une carte et on va lui mettre autour de lui les lieux culturels, les lieux touristiques, mais on va aller un peu plus loin, on va aussi présenter tous les commerces de proximité, les hôtels, les restos, etc. L'idée, c'est que le touriste soit vraiment comme un cocon en pâte et toutes les informations pour pouvoir passer un bon séjour en Aveyron simplement, efficacement et rapidement.
sur donc la même application.
Exactement. Donc on va le suivre, puis il va pouvoir tranquillement se balader en allant vers Conques. Il va s'apercevoir que il y a une très jolie cascade à visiter à Salle de la Source, qu'un peu plus loin il y a un musée régional qu'il peut aller visiter, mais il va aussi s'apercevoir qu'on a quelques vignerons qui sont très très contents de l'accueillir. S'il veut se poser un petit peu, on va lui mettre les hôtels, les restaurants qu'il y a sur le trajet, etc. Et on va aller encore un peu plus loin. L'application va permettre aux commerçants qui veulent faire un peu de promotion et parler un peu d'eux, sous le système de push, pouvoir mettre quelques petites alertes pour alerter sur des choses qui peuvent l'intéresser aussi, quoi.
Et l'application, elle permettra aussi le paiement? Par exemple, de la réservation de la Zoé, faut
tout à fait
payer quand même.
On oui, bien sûr.
Donc, elle est globale, donc.
Tout est
mon seul interlocuteur à part avoir acheté le ticket d'entrée au musée Soulages.
C'est ça.
Et après, à l'arrivée, je fais l'aller-retour. Mmh. Tout se passe bien, pas de soucis.
On va interconnecter l'application avec le véhicule, bien sûr.
Ouais.
Donc, on connaît l'autonomie du véhicule, on va connaître tout ça. Ça va être un peu, il y a une fonction de GPS qui nous permet de, quand on se promène, savoir tout.
Et aussi d'évaluer s'il faut la recharger à un moment donné, la petite Zoé.
Bien sûr.
D'accord.
Et bien sûr, si la charge est faible, ben, on va indiquer où sont les points relais les plus proches. Mmh. Et quand l'utilisateur sélectionne un lieu qu'il veut aller, on calcule automatiquement le trajet, on lui indique le trajet le plus rapide et le temps de charge, s'il est suffisant ou pas. Si la charge n'est pas suffisante, on le réoriente vers une borne,
d'accord,
bien évidemment.
Monsieur Picasso, Alain Picasso, combien de Zoé vous avez dit qu'ils sont prévus là, à partir de cet été, qui vont fonctionner avec cette application?
Alors, dans un premier temps, l'ambition, c'est de mettre en place 2 Zoé. Mmh. Mais je voudrais quand même préciser que c'est une expérimentation. Et donc, si cette offre a une accroche auprès du touriste, l'idée, c'est de créer d'autres offres, d'avoir un portefeuille d'offres autour du musée Soulages, qui pourront être, par exemple, musée Soulages Terre d'Aubrac, musée Soulages Lac du Le Vézou. Et l'intérêt, c'est que ben, le touriste qui vient visiter le musée Soulages, on le stabilise un peu plus durablement sur les territoires de l'Aveyron.
D'accord.
Donc il pourra rester un jour, 2 jours. Mmh. Et puis il faut aussi mettre en avant que c'est une première en France, hein, puisque on associe un produit culturel, une offre de solutions de mobilité électrique et une application digitale. Donc aujourd'hui, ça n'existe pas encore en France.
Ça
sera une première.
Ouais. D'accord. Bravo.
Oui.
C'est l'idée à qui? C'est la vôtre, là? Vous voulez pas le dire? Si, c'est la sienne. D'accord, c'est la sienne. Bon, bravo. Non, mais un pack, le pack complet.
C'est ça.
C'est le pack complet, vous voyez, en Aveyron, on a
produit
une chance.
Culturel,
on a des idées et de l'électricité.
Ouais. Bah, bravo. Et alors, juste, je reste un petit peu, parce que je m'y connais pas, j'y connais rien en application mobile, quand même, mais quand même, Tristan. Ça me paraît quand même un gros truc, vous avez quel âge, vous m'avez dit?
40 ans.
Ah, non.
Si.
Bon, vous faites 15 de moins.
Merci.
Bon, bah, de rien. Bon. Mais, oui, donc, 40 ans. OK. Donc, oui, vous savez de quoi vous parlez. Enfin,
c'est un petit peu d'expérience à la matière. Oui, tout à fait, ouais. Après, on a quand même pas mal d'expérience là-dedans. Puis, il y a la plateforme Culture Live qu'on développe à côté, qui va fournir un flux d'informations qui est déjà en place, en fait.
Donc, et alors là, on est, pour l'été, donc, on va dire pour le mois de juillet. Donc, on est quoi? 2-3 mois, je sais plus compter. Mais ça veut dire que là, vous avez déjà quelque chose, un produit quasi fini. On est sur les derniers tests. On en est où?
On est en train de développer une bonne partie du projet.
Ouais.
Et là, il nous manque quelques petites briques que Renault doit nous fournir pour finaliser tout ça.
Eh oui, puisque Renault, avec ses véhicules, vous le disiez, doit aussi intégrer une partie du système.
Voilà, pour qu'on puisse s'interconnecter directement avec le véhicule.
D'accord, donc ça vous fait rencontrer des gros.
C'est très intéressant, ouais, effectivement.
Ouais. En plus, Renault est pas mal sur le véhicule électrique, hein, parmi les constructeurs français. Et donc, Tristan, qui travaille donc et qui est dirigeant de la société Somatic, hein, société ruthénoise.
C'est ça, un de nos locaux à la zone d'Arsac, la pépinière d'entreprise.
Et Somatic, c'est S-O-M-A, plus loin T-I-C. On peut, vous avez un, ouais, forcément, vous avez une page Facebook, un truc comme ça,
oui, bien sûr,
pour trouver vos activités.
Oui, bien sûr.
Hein, parce que vous faites pas que cette application, donc à venir. Autour de ces véhicules Zoé du musée Soulages, une idée d'Alain Picasso. Alain Picasso, d'ailleurs, Tristan, si vous l'avez mis sur ce projet en particulier, on l'a vu, très intéressant, très, très innovant, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est pas tout à fait par hasard. C'est un petit génie, en gros, Tristan Garcia. Hein, on est bien d'accord?
Alors effectivement, c'est un petit génie parce qu'on a aussi innové en termes de méthode, puisque on voulait avoir des solutions innovantes venant de start-up, et donc on a lancé un appel à concours au niveau régional. Donc EDF a pitché, hein, c'est un terme à la mode, devant des start-up pour essayer de les accrocher sur notre projet. Et on a eu 7 candidatures de start-up, beaucoup de start-up de Toulouse et de Montpellier. Et il s'avère que celle qui nous a proposé la solution la meilleure et la plus innovante, eh bien, c'est celle de Somatic, une start-up aveyronnaise.
Et à sa tête, Tristan Garcia. Et combien de personnes, collaborateurs, Tristan, vous avez déjà ?
Sur le projet, en ce moment, on est 8.
Et quand vous serez 8000, vous serez toujours en Aveyron ?
J'espère bien.
Ouais, bah moi aussi. Bon, allez, on va poursuivre dans cette émission mobilité innovante en Aveyron. On a parlé de ces bornes qui sont en cours de déploiement avec Monsieur Albespi, président du syndicat d'énergie de l'Aveyron, qui était avec nous. On a découvert donc, alors en particulier donc cette nouveauté là, bientôt autour du musée Soulages, ces véhicules Zoé en autopartage, cette application mobile, tout ça à disposition d'ici quelques mois à peine. On n'a pas fini autour de notre présentation du département qui bouge, de l'Aveyron, autour de la mobilité innovante. On va parler d'hydrogène, Alain, et on va parler aussi alors d'un grand événement. Là, je n'en dis rien parce que c'est tellement énorme que je fais durer le suspense. Mais avant ça, on va s'envoyer un second titre dans cette émission. On reste dans le thème, on est bien. C'est un bon souvenir. Téléphone, bon, jusque-là, on est pas mal. Mais électricité, le titre. Hein, bon, voilà. Allez, 107.9 CFM, on revient juste après.
Cité, et c'est la densité.
CFM 107.9, mobilité innovante en Aveyron, on en parle aujourd'hui dans cette émission spéciale avec nos invités, et en particulier Alain Picasso, directeur de l'agence de l'hydraulique d'EDF, une rivière, un territoire développant, aussi toujours avec tous les pavortiers, toujours là, Tristan Garcia, évidemment, dirigeant de l'entreprise Somatic, qui propose, donc qui va proposer là au début de l'été, cette application digitale qui nous servira à utiliser ces petites zoé électriques qui seront à disposition pour des trajets Musée Soulages Conque. Et on a vu tout l'intérêt et la nouveauté de cette proposition donc en Aveyron qui arrive pour cet été, première en France.
Une première en France, oui.
Bon, ça, c'est un aspect des choses. La mobilité innovante, c'est aussi l'hydrogène dans nos départements. Même moi, j'en ai un petit peu entendu parler.
Alors oui, on est aussi des pionniers en matière d'hydrogène en Aveyron, puisque on a remporté deux appels à projets de l'Union européenne. Un premier projet qui commence à être connu, hein, qui consiste à installer à Rodez, avec la société Bralet, l'une des premières stations de distribution d'hydrogène pour véhicules.
Ouais.
Et ce sera même la station de plus grosse capacité de France. Et si vous regardez bien, vous pouvez déjà voir sur nos routes les premiers véhicules hydrogène Kangoo et Hyundai, notamment ceux de la société Bralet, ceux de Ruban Bleu, d'EDF, de la ville de Château et de l'agglomération de Rodez. Donc ça, c'est pour le premier projet. Et puis le second, il consiste à la création d'un corridor hydrogène qui ira de Rodez à Saragosse en Espagne,
ouais,
et qui associe l'Occitanie, Andorre, l'Aragon et la Catalogne. Et donc, en fait, ce projet consiste à créer le premier réseau transfrontalier en Europe d'une dizaine de stations hydrogène avec des flottes de véhicules associées. On aura à la fois des véhicules automobiles, des vélos, puisqu'il y a des vélos hydrogène, et des bus. Là, EDF est associé à la société aveyronnaise Ondulia et l'agence de développement économique de la région Occitanie dans ce beau projet qui aura aussi associé un programme de recherche.
Alors, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'un corridor d'hydrogène, ça veut dire qu'un peu comme pour les bornes électriques, là sur ce circuit Rodez-Catalogne, Saragosse, pardon, on trouvera donc à chaque fois à distance suffisante le moyen de faire une recharge d'hydrogène. J'ai bien compris le truc.
Vous avez tout compris. En fait, ce sera un maillage d'une dizaine de stations hydrogène avec différents moyens de production associés. Notamment à Pamiers en Ariège, on aura une centrale hydroélectrique qui appartient à Ondulia, qui sera couplée avec une station de distribution d'hydrogène et une vingtaine de véhicules associés qui seront en fait instrumentés pour pouvoir mesurer leur autonomie réelle.
D'accord. Bon. Alors sinon, avant, justement, vous avez parlé de Bralet et puis cette première station de distribution d'hydrogène. C'est pour quand, pour commencer à faire des premiers plans? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, si on y doit dire comme ça.
Alors effectivement, oui. On devrait avoir une station provisoire mobile, vraisemblablement, dès le mois de mai, puisqu'on a un événement important, et il est important qu'à cette date-là, on ait la station mobile, et la station définitive, au plus tard, on pense à l'automne, sachant qu'on a déjà une petite station qui distribue de l'hydrogène sur le circuit automobile d'Albi.
D'accord. Alors tiens, vous dites une date importante au mois de mai. Bon, je crois même qu'il y en a plusieurs, mais est-ce que cette date importante, et je vous dis peut-être une bêtise, c'est le 11 mai, non?
Ah, bonne pioche.
Bien, ouf.
Donc le 11 mai, on organise une journée technique hydrogène,
ouais.
H2Day, à Honnay-le-Château.
Ouais.
Ce sera une journée de dimension nationale, où on verra intervenir des représentants de l'Union européenne, des représentants nationaux, notamment de l'AFIPAC, qui est l'association française qui fédère tous les industriels de l'hydrogène, l'ADEME, et on aura aussi l'honneur d'accueillir la vice-présidente de la région Occitanie en charge de l'économie, Nadia Pelfig. Mmh. De nombreux participants qui sont des acteurs industriels de la filière et des acteurs des territoires institutionnels, élus, qui s'intéressent aux filières hydrogène. Et donc le but de cette journée, c'est à la fois de donner des perspectives sur le développement des technologies et puis de valoriser les projets qui se sont développés ici en région. Donc en faisant venir les territoires qui s'intéressent à l'hydrogène pour qu'eux aussi fassent émerger des projets. Donc l'idée est vraiment de les inspirer à partir des initiatives de l'Aveyron et de l'Occitanie.
Ah, c'est beau encore.
Ah, c'est beau, oui. Et puis alors, c'est couplé avec une très belle manifestation qu'on organise le lendemain.
Avec le 12 mai, donc.
Le 12 mai, voilà.
D'accord,
tout à fait. Avec nos partenaires albigeois, on va organiser une première mondiale, à savoir un challenge de course de véhicules Kangoo hydrogène sur le circuit automobile d'Albi.
Oui, d'accord.
Et donc, c'est une course qui va s'inscrire dans le programme d'une grosse manifestation qui s'étale sur tout le week-end, qui s'appelle l'Albi Eco Race, mais je laisserai Monsieur Bois nous présenter un peu plus dans le détail cet événement.
Et oui, on va en parler tout de suite avec Monsieur Bois, qui est vice-président de l'agglomération d'Albi. Albi qui accueillera donc cette première mondiale, une course de kangou hydrogène le 12 mai. Et puis on parlera aussi de l'association dont Monsieur Bois est le président, l'association Avers Midi Pyrénées. Ça a à voir avec la mobilité innovante, l'accompagnement en véhicules électriques en particulier. On l'appelle tout de suite. Donc le circuit automobile d'Albi qui accueille le 12 mai cette première mondiale, hein, cette course de véhicules kangou hydrogène. Une première mondiale à Albi, Monsieur Boite, j'espère, j'imagine que c'est déjà rien qu'en soi une première satisfaction pour vous.
Oui, tout à fait. Nous avons la chance sur le territoire d'avoir quelques possesseurs de ce véhicule performant et innovant qu'est la Kangoo électrique avec une pile à combustible hydrogène. Donc l'idée nous est venue puisque j'ai le plaisir de présider l'association Avers Midi Pyrénées, qui est l'association de promotion du véhicule électrique, donc d'organiser cette manifestation qui a un caractère à la fois économique, environnemental, de performances aussi autour de ce véhicule, mais qui seront, c'est vrai, des performances différentes dans la mesure où c'est surtout l'économie d'énergie, la régularité qui seront mesurées. Et puis à travers ça, c'est organiser un challenge autour des entreprises qui ont fait cet investissement, qui est très innovant, je le répète, et qui donc veulent s'inscrire un petit peu dans l'histoire du véhicule électrique et du véhicule électrique hydrogène, puisque c'est bien ce dont nous parlons. Alors, c'est une des briques de la manifestation que nous faisons à la suite de ce qui se fait le jeudi à Rodez, la journée qui va être plus académique, où on va un petit peu réfléchir, poser des débats autour de ce véhicule de l'électromobilité. Mais à Albi, puisque nous faisons en trois étapes, le vendredi, c'est donc le challenge autour de ces Kangoo hydrogène avec une fête, donc je le disais, autour de ces entreprises innovantes avec leur personnel qui vont se réunir, se mesurer. Et puis il y aura aussi un petit côté festif autour de l'innovation. Le samedi, nous aurons un plateau de véhicules plus urban concept autour de donc d'écoles d'ingénieurs qui ont construit des véhicules innovants électriques et qui viendront les présenter, qui viendront se mesurer sur des challenges. Nous aurons aussi des véhicules électriques solaires, donc on espère un plateau autour de 5-6 équipages qui vont venir, pour ceux qui viendront du plus loin, ils viendront de Turquie. C'est des voitures qui sont actuellement là, qui faisaient la semaine dernière une course en Égypte, et ce sont des véhicules donc électriques et solaires. Donc tout ce plateau autour des Kangoo hydrogène qui nous intéresse un petit peu, eh bien, c'est de montrer tout ce que l'on peut faire autour de cette énergie et tout ce qu'il est possible de faire en matière de mobilité.
Et une première mondiale, donc cette course de Kangoo hydrogène sur le circuit automobile d'Albi, mais pas un coup comme ça sorti de nulle part, hein, puisque cette course, cette première mondiale, elle s'inscrit dans le cadre de l'Albi Eco Race. Donc le circuit d'Albi et Albi qui sont depuis plusieurs années maintenant tournés vers la mobilité innovante.
Tout à fait. Nous avons donc depuis 4 ans maintenant eu ici sur le circuit d'Albi la première station service publique en capacité de délivrer de l'hydrogène pour remplir donc ces réservoirs de ces véhicules. Et donc comme nous avions cette infrastructure, c'est vrai que clairement derrière ça a provoqué un petit peu le déclenchement autour de ce véhicule, avec des partenaires, donc bien sûr Tarné, CCI notamment, et puis à Véronée, autour de, bien sûr, RDF, et puis Bralet, des entreprises locales, des mairies, d'autres entreprises de transport telles que Ruban Bleu, voilà, donc des gens qui ont voulu vraiment s'inscrire dans cette innovation, qui veulent être un petit peu des pionniers, puisqu'on en est quand même encore aux prémices et au début. Je rappelle que la France a malheureusement une dizaine d'années de retard par rapport à un pays comme l'Allemagne au niveau de la pile à combustible hydrogène, mais des acteurs voilà, qui sont comme ça un petit peu fédérés autour de ce qui se faisait à Albi avec la Seine-Hydripol et la Vert Midi-Pyrénées ont compris tout l'intérêt qu'il y avait à promouvoir cette technologie. Et donc sur ces deux jours, notamment le jeudi et à la suite de ça le vendredi, l'idée c'est vraiment de mettre en avant ces véhicules et puis ces équipes humaines qui sont derrière, parce que avant tout il faut aussi des équipes d'entreprise, des équipes de femmes et d'hommes qui soient motivées pour faire marcher tous ces véhicules.
Alors, Monsieur Bouat, je le rappelle, vous êtes élu à la municipalité d'Albi, vice-président de l'agglomération d'Albi. Donc, en tant que dans ces fonctions électives, on comprend votre souci, votre sensibilité peut-être à la mobilité innovante, hein, mobilité électrique en termes de pollution, notamment sur des sujets comme ça. Mais vous êtes aussi par ailleurs président de l'Avert Midi Pyrénées, que vous avez déjà cité, une association nationale, l'Avert, dont vous êtes le dirigeant pour le Midi Pyrénées. De quoi il s'agit exactement ?
L'Avert, donc comme vous le disiez, est au départ une association nationale, qui est très ancienne, qui est née du premier choc pétrolier de 1973, où déjà nos dirigeants, nos instances ont pressenti qu'il allait y avoir quelque chose autour de la mobilité électrique. Il y a 4 ans maintenant, le président de l'Avert National, connaissant, comme vous le disiez, mes motivations, c'est vrai que je suis vice-président en délégation à l'innovation, donc l'électromobilité, l'innovation, c'est des choses qui me tiennent à cœur, donc m'a demandé si je ne voulais pas essayer de créer quelque chose autour de l'électromobilité, puisque l'Avert avait décidé de créer en quelque sorte des franchises régionales autour de son nom et autour de ses préoccupations, en étant au plus près des décideurs locaux, sachant bien entendu que l'idée et l'intérêt c'était d'arriver à être au plus près des régions et des décideurs locaux pour faire avancer la cause du véhicule électrique et de l'électromobilité. Et donc avec quelques dirigeants, donc voilà, M. Picasso notamment, l'idée nous est venue donc de créer une Avert régionale, alors Midi-Pyrénées aujourd'hui et puis Occitanie demain très certainement, donc avec des acteurs variés, multiples, du champ industriel, politique, voilà, nous sommes réunis et puis nous avons créé l'Avert Midi-Pyrénées aujourd'hui, et l'idée c'est d'arriver à créer un événement un petit peu fédérateur autour de cette électromobilité, sur un circuit automobile. Je crois qu'on est aussi dans une période clé de changement, de paradigme un petit peu, entre le véhicule moteur atmosphérique, où on voit bien les limites de l'exercice, et puis le basculement vers l'électrique. Et donc derrière ça, on sait très bien qu'un des ressorts de promotion et d'investissement, eh bien c'est la compétition. Alors bien sûr, c'est des compétitions un petit peu différentes. Il n'y a pas de bruit, on va découvrir le monde du silence avec des compétitions autour de l'économie d'énergie, de la régularité. Voilà, ça va amener d'autres choses, d'autres valeurs, et quelque part, on prépare aussi cet avenir autour du véhicule électrique.
Un avenir sur lequel vous êtes positif. On a le sentiment que le côté électromobilité, le sujet a bien avancé dans les mentalités, même au point de vue des plus hautes autorités. Ça se présente mieux qu'il y a quelques années, peut-être, non ? C'est le moment ?
Complètement. Je suis là un petit peu plus optimiste. C'est vrai que, alors peut-être c'est tous nos efforts qui font que le travail dans l'ombre que nous faisons de persuasion, de lobbying auprès des décideurs, et puis aussi clairement l'offre, par exemple, en borne de recharge, tous les efforts qui ont été faits par les syndicats, les communes, les communautés de communes d'installer des prises de recharge, fait qu'aujourd'hui, quand je suis le repossesseur d'un véhicule électrique, j'ai moins à me poser la question de où est-ce que je vais pouvoir faire mon complément de charge pour pouvoir rentrer chez moi. C'est vrai que de plus en plus, on voit éclore un petit peu partout des bornes de recharge, aussi bien dans des stations sur des parkings de grande surface que sur des parkings de centre-ville ou de centre de village même. Et donc cette cartographie qui se met en place va amener une solution technique, hein, pratico-pratique, qui va faire que voilà, demain je vais beaucoup moins me poser la question. tout le travail d'information que nous avons fait avec l'AVER en passant dans les collectivités. Nous avons fait des réunions d'information en expliquant aux gens que le véhicule électrique n'était par exemple pas seulement un véhicule urbain, à la limite surtout pas, c'est aussi un véhicule rural, parce que si j'habite à la campagne et que je vais travailler en ville tous les jours sur la même distance, en sachant que ce soir je pourrais recharger chez moi ou au bureau dans la journée, eh bien le véhicule électrique est tout à fait adapté à, par exemple en deuxième voiture, plutôt que d'avoir un diesel peut-être plus ancien, avec tous les problèmes de particules fines et autres que l'on observe, et d'ailleurs qu'on observe un petit peu partout en France, et malheureusement pas seulement dans les milieux très urbains, eh bien tout cela doit nous amener à réfléchir, puisque on a la solution technique, on a la solution de recharge, on a la solution des véhicules, et aujourd'hui eh bien, il suffit de se poser les bonnes questions, et je pense qu'en face on a les réponses adéquates, et pour permettre donc cette promotion, ce développement, je pense, souhaité et nécessaire. Est nécessaire du véhicule électrique.
Bien, Monsieur Boite, j'ai posé la même question à nos invités précédents dans cette émission, à Alain Picasso notamment. Puisqu'on parle de mobilité électrique, vous, en plus, j'imagine qu'en tant qu'élu, vous vous baladez pas mal. Vous déplacez comment, oui. Vous, Monsieur Boite?
Alors, j'ai la chance, donc, en milieu urbain, d'avoir des distances relativement raisonnables. Donc, je me déplace à vélo. Et c'est vrai que je songe, mais là, je songe à m'acheter un vélo à assistance électrique. Et puis vous savez, des fois arriver à des réunions où on est un peu, quand il fait beau et chaud, plus ou moins transpirant, c'est vrai que le confort du véhicule électrique, du vélo électrique permet d'arriver très tranquillement. Et non, mais le vélo électrique, on le sait, augmente le champ des possibles. Vous savez, la distance admissible pour un déplacement à vélo urbain quotidien, c'est 3,5 km. Mm-hmm. Dès qu'on passe avec le vélo électrique, on passe à 10 km.
Ah oui.
Le champ des possibles est différent.
Alors, vous avez dit qu'il fait beau et chaud, et c'est vrai que c'est souvent le cas à Albi, et ça sera sans doute le cas, on espère. Le 12 mai prochain, vous serez présent pour cette première mondiale, Monsieur Boite.
Ah, complètement. J'invite vraiment tous vos auditeurs à venir le 12, le 13 et le 14, puisque le 12, c'est vraiment le véhicule hydrogène autour de la Kangoo, donc c'est vraiment ce qui nous lie, mais c'est un des éléments. Il y a aussi le côté promotion et innovation sur le véhicule solaire, parce que je pense qu'un jour, je suis certain qu'un jour les véhicules seront forcément avec des moteurs électriques, mais ils auront à la fois des piles à combustible et des panneaux solaires, puisque les deux sont des technologies complémentaires et très très efficientes. Donc là, il y aura le mix autour du véhicule électrique, donc panneaux solaires, vous verrez des véhicules qui se déplacent à 110 ou 120 km/h. Dans un silence parfait et qui sont animés simplement par le soleil. Donc ça, c'est assez réconfortant de voir qu'il y a des technologies qui fonctionnent et que très clairement, on est vraiment au début, mais voilà, il va suffire de encore quelques investissements, quelques mises au point pour que demain, ce soit le véhicule de madame et monsieur tout le monde et qu'on puisse tous se déplacer avec des véhicules électriques avec des piles à combustible et des panneaux solaires qui nous permettront d'avoir des autonomies très facilement entre 600 et 800 km sans que cela ne nous coûte et ne coûte surtout à la planète.
Et en attendant d'être au volant de ces véhicules, ils seront à découvrir en particulier pour ce grand week-end autour de la mobilité innovante Circuit d'Albi.
Voilà, et le dimanche matin, donc le vendredi, samedi, c'est un petit peu les compétitions, les véhicules labos avec les équipes. La convivialité fait que vraiment, l'idée c'est que vraiment les gens puissent tourner autour des stands, voir les véhicules, discuter avec tous les ingénieurs qui durent là. S'il y a des jeunes gens, bien sûr, s'ils sont passionnés et intéressés, ou des parents qui veulent un petit peu essayer de trouver des vocations sur leur jeune tête blonde, eh bien, je les invite à venir à vie parce que là, il va vraiment y avoir du débat et puis ils pourront être vraiment dans le concret. Il y a des gens qui viennent d'EcoSolar, de l'équipe de France de véhicules solaires, donc qui viennent de Brest. Là, c'est toute une équipe d'ingénieurs qui sont vraiment très portés vers le côté pédagogique et explication et passionnés et donc passionnants. Et puis le dimanche matin, il y aura un showroom autour des constructeurs qui seront présents. Ils présenteront leurs véhicules, là les véhicules qu'on peut d'ores et déjà acheter pour circuler dans la vie de tous les jours. Et donc ça permettra aussi de pouvoir faire quelques essais sur la piste du circuit et de voir comment fonctionnent tous ces véhicules. Donc je pense que nous allons essayer de réunir toutes les marques qui aujourd'hui présentent des véhicules Il y aura aussi un constructeur japonais, donc Hyundai, qui sera là avec une voiture hydrogène, gros SUV, mais électrique hydrogène.
Bon, bah on y sera, monsieur Boite, c'est bien noté, le 12 mai sur CFM. En attendant, bonne continuation à vous, en tant qu'élu à la mairie d'Albi, à l'agglomération aussi dont vous êtes vice-président, et puis en tant aussi que président de l'Avers Midi Pyrénées, que nous avons découvert grâce à vous dans cet entretien. Merci monsieur Boite.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir. Donc cette première mondiale, je récapitule cette première course à base de véhicules hydrogène, ça sera des Kangoo en particulier. Kangoo hydrogène, le rendez-vous, il est le 12 mai, c'est très bientôt, 12 mai prochain sur le circuit automobile d'Albi. On va rester un petit peu dans l'esprit, compétition c'est un bien grand mot, mais il y a un peu de ça quand même, mais en tous les cas de mobilité innovante avec un énorme rendez-vous aussi, un petit peu plus lointain mais énorme. Rendez-vous qui arrive chez nous à Olympique Asso.
Et oui, on a eu une chance exceptionnelle. On aura le 26 octobre prochain le passage sur l'agglomération de Rodez du e-rallye Paris-Monte-Carlo qui est organisé par l'Automobile Club de Monaco. Donc on a réussi à convaincre l'Automobile Club de Monaco de s'arrêter à Rodez pour une soirée étape entre le départ de cette course qui se fait au château de Fontainebleau et l'arrivée à Monaco avec la remise des prix par le prince de Monaco. En mettant en avant deux arguments de choc. Le premier, c'est qu'on aura la station hydrogène qui permettra d'alimenter les véhicules l'hydrogène. Et le deuxième, c'est que, comme vous le savez, le prince a des origines du Nord-Aveyron, du Carladez.
Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. C'est pour ça que parfois, il vient sur le département pour rappeler ses origines et peut-être se ressourcer un petit peu lui aussi. Quand on est prince, tu m'étonnes. Donc oui, l'Automobile Club de Monaco, c'est un truc énorme, hein, qui organise ce e-rallye Paris-Monte-Carlo, mais qui est aussi, c'est presque du patrimoine historique, l'Automobile Club de Monaco.
Et oui, alors pour l'histoire, l'Automobile Club de Monaco est vraiment une institution à Monaco, hein, puisqu'il a été créé en 1890. Il a organisé le premier rallye automobile au monde en 1911, ce qui en fait le plus ancien rallye effectivement au monde. Ils en sont à leur 73e édition et on dit que c'est le rallye roi, puisque tous les pilotes et les constructeurs veulent gagner cette manifestation.
Ah ouais.
Et puis l'Automobile Club de Monaco, il organise aussi, comme vous le savez, le Grand Prix de Monaco historique et surtout le Grand Prix de Monaco de Formule 1, qui est sans doute la plus prestigieuse des courses automobiles du monde.
C'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et puis l'Automobile Club de Monaco innove aussi, puisqu'il crée des courses de véhicules aux énergies alternatives, et notamment donc le rallye qui nous fera le plaisir de passer à Rodez au mois d'octobre, le rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles, qui ne comprend que des véhicules à énergie électrique, hybride et énergie alternative. C'est une chance, puisqu'on va pouvoir y découvrir des véhicules qu'on n'a pas l'occasion de croiser sur nos routes, notamment véhicules électriques comme ceux des marques Tesla et des véhicules hydrogènes comme les Toyota Mirai, Honda Clarity et Hyundai.
Ok, donc on a la chance que le Paris-Monaco en véhicule électrique s'arrête à Rodez le 26 octobre.
Le 26 octobre, donc ils arriveront en fin d'après-midi, ils dormiront à Rodez et ils repartiront le lendemain matin.
Alors voilà, il y a plusieurs choses. Il y a un, les voitures, j'espère qu'on pourra les voir, prendre des photos et tout, petit un.
Alors l'idée effectivement c'est d'en faire une grande manifestation populaire et de stocker dans un lieu unique l'ensemble des véhicules à leur arrivée et d'ouvrir le site au grand public pour qu'ils puissent découvrir les véhicules, échanger avec les pilotes puisqu'apparemment il y a des pilotes de renommée internationale.
J'allais venir, ouais. Donc il y a un moyen aussi parce qu'il y a les voitures, c'est une chose, prendre des photos, ces voitures très innovantes déjà, première chose. Puis deux, connaissant l'Automobile Club de Monaco, son organisation, sa structure, oui ça va pas, il va y avoir un, j'imagine, des champions du sport automobile et deux, peut-être même, alors bon, le terme est peut-être pas approprié, mais aussi des célébrités, ça m'étonnerait pas. Hein.
Ah, qui sait, peut-être qu'on aura la chance d'accueillir le prince.
Ah, carrément?
Ah non, je sais pas, je veux pas.
On sait pas. Ça, moi, j'allais pas jusque là. Moi, s'il y a le prince, alors là, à mon avis, oui, on va avoir du beau monde le 26 octobre.
Oui, et il y aura, on compte à peu près 200 participants et une cinquantaine de journalistes de l'Europe entière.
Ah oui, oui, oui. Ça, oui.
Avec un suivi en direct de l'édition par la télé Bein Sport.
Ah ouais, non, mais c'est un événement, m'étonne pas. Oui, c'est un événement international. Oui, oui, oui. Bon, bah, j'espère que le message va continuer de bien passer. 26 octobre, j'étais en train de regarder. C'est un jeudi. Hein, pour moi, c'est noté.
C'est un jeudi.
D'accord, parfait. Et on sera au rendez-vous pour ce grand événement sur le Brutet Noir, ces véhicules électriques et hydrogènes. Hein.
Des véhicules électriques et des véhicules hydrogènes qu'on ne voit pas circuler sur la route.
Ah, et voilà, et là on verra circuler sur nos routes aveyronnaises en direction de Monte-Carlo pour ce e-rallye Paris-Monte-Carlo le 26 octobre. Bon, bah écoutez, je sais pas, vous voulez pas annoncer non plus qu'on fait décoller une fusée là, parce que non, là on est bon là.
Mais c'est une bonne suggestion parce que savez que les fusées effectivement sont alimentées par de l'hydrogène.
Ah mince, bah bien. Bon, allez, Alain Picasso. Il y a toujours plein d'idées, plein de projets. Mais donc, non. Alors, on va attendre un peu pour la fusée, le décollage de la fusée à hydrogène sur le département. On va attendre un tout petit peu. Mais pourquoi pas? Ça sera peut-être la prochaine étape. Mais là, vous êtes déjà, parce que vous êtes, notamment, au moins la coordination souvent à la proposition et à l'organisation des différents événements que vous avez évoqués dans cette émission autour de la mobilité innovante sur le département. Donc, le 26 octobre, c'est la plus lointaine. Mais c'est donc cet e-rallye Paris Monte Carlo. On aura bien l'occasion d'en reparler sur CFM et sur bien d'autres médias dans le département, en France et dans le monde, ça évidemment. Les autres rendez-vous, je les rappelle, c'est aussi dès le 12 mai. Bon, c'est Albi, c'est dans le Tarn, mais enfin, on les aime bien quand même, nos amis d'Albi. On ira faire un tour sur le circuit pour une première mondiale. Cette course Kangoo hydrogène, c'est surtout le fait que ce soit des hydrogènes, à mon avis. Il y a déjà des Kangoo qui ont fait des courses. Mais la nouveauté, c'est qu'elle soit celle-là à hydrogène. Autre rendez-vous que l'on a cité, j'en ai oublié un ou pas, je m'en rappelle plus.
La journée technique, le 11 mai.
Voilà, la veille, tout simplement. De toute façon, toutes ces informations, le calendrier complet, on peut le retrouver, j'espère, grâce à vous, Alain.
Oui, vous pouvez aller sur notre site rodez-development-edf.com.
Voilà, et vous retrouverez l'ensemble de ces informations, le détail, le calendrier, tout qui va bien, et de l'image en plus, évidemment. Merci beaucoup, Tristan, d'avoir été avec nous. Tristan Garcia.
Merci à vous.
Bon courage. Bonnes vacances, c'est pas la peine pour cette année.
Non, pas cette année.
D'accord, ok. Et cette application digitale que vous êtes en train de créer pour ce service très innovant, je rappelle, c'était ça une autre date du calendrier, même si pas le jour. En tout cas, l'été, l'arrivée de ces eaux électriques à disposition entre le musée Soulages et Conques, et notamment grâce à l'utilisation de l'application digitale mobile que vous êtes en train de finaliser avec vos collaborateurs de l'entreprise Somatic, SOMA plus loin TIC, hein, entreprise routinoise. Vous êtes à Véronais, vous êtes routinois,
c'est ça,
et où est précisément?
Zone d'Arsac.
Voilà, merci. Et juste un truc quand même, faut que je vous demande, donc TIC au tout début d'émission, mm-hmm. Vous avez dit, pour vous, c'est évident, mais je l'ai quand même souligné. Technologie, l'information.
Et de la communication.
Bon, d'accord, mais alors Soma, c'est un truc indien, ça?
Du tout, le Soma.
Ah si, Soma, c'est un truc indien.
Aussi.
Mais peut-être pas que.
Mais pas que.
Voilà.
C'est aussi en médecine, c'est l'intérieur d'une cellule grise. C'est ce qui nous fait réfléchir.
Oh là 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 là.
Elle est pas mal.
Il est pas mal non plus, le Tristan, voilà. Vous êtes bien, mais le Tristan, il est pas mal non plus.
Et c'est pour ça qu'on l'a choisi.
Bon, bah écoutez, bravo. En attendant, on va se quitter sur CFM, on va repartir en musique. Et moi, je reviendrai sur ces événements, en particulier le 26 octobre. Ça y est, moi, j'ai coché la date sur le calendrier, je vais voir ça. Et puis Tristan, très curieux de voir votre application mobile en service. J'imagine que vous aussi, ce sera une émotion ce jour-là.
Ah ben bien sûr.
Hein?
Puis j'espère qu'on viendra vous la...
Avec plaisir.
Vous intéresser pour vous la représenter.
Et vous allez revenir d'ailleurs assez prochainement, j'espère, dans nos studios pour parler d'une autre facette de votre activité à Somatic.
C'est ça. Hein? Culture Live, la plateforme culturelle qu'on va bientôt lancer sur l'Aveyron et qui est bien sûr interfacée avec l'application.
Écoutez, lui aussi, il est comme Alain Picasso, il n'arrête pas, c'est très très bien. Il fait aller nos territoires, la France, dans la bonne direction. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci à CFM.
Et une bonne journée à tous sur CFM.